Bonjour à tous. J'ai connu durant ces dernières semaines les mêmes émotions que vous, je pense, le choc par rapport à la vie normale qui s'arrête, l'inquiétude dans ces nouvelles circonstances, les préoccupations, le découragement aussi et des encouragements. On a du mal à savoir quel jour on est, n'est-ce pas? Tous les jours se ressemblent, sauf le dimanche, bien sûr, j'espère. Généralement, je crois que nous sommes répartis en deux groupes. Il y a ceux qui connaissent des personnes, des patients ou des proches malades du Covid-19 et qui sont bien conscients de l'inquiétude. Et puis il y a ceux qui ne connaissent pas personnellement des personnes souffrantes. Et pour ces personnes, le confinement est une période de frustration. Il y a l'obligation de travailler sans l'avantage d'être au bureau, la nécessité d'être à la maison sans l'avantage d'être en congé, et la possibilité d'être en famille sans l'avantage de pouvoir aller quelque part avec cette famille. C'est donc difficile de vivre cette période avec sérénité, mais j'espère qu'il y a de la joie par les petites choses, un rayon de soleil, le sourire de quelqu'un, le café de ce matin. Alors que dit la Bible qui puisse nous aider en cette période? C'est très courant ces jours-ci de tirer des versets de la Bible en les isolant complètement de leur objectif premier. Le plus extrême exemple que j'ai entendu était un ami, et là c'était pour blaguer, mais il m'avait partagé Jacques chapitre 4 verset 8. Nettoyez vos mains, pécheurs. Sans être farfelu, nous reconnaissons que la Bible nous révèle un Dieu qui travaille en toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et je veux aujourd'hui nous faire entendre davantage sur le plan de Dieu pour nous encourager. Lisons la Bible en Jérémie, chapitre 29, verset 1 et puis verset 4 à 14. Jérémie est un prophète de l'Ancien Testament, il parlait à sa génération, et il a aussi écrit une lettre qui est recopiée ici par son scribe. Je vais lire Jérémie 29, verset 1. Voici le contenu de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem au reste des anciens en exil, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple, à ceux que Nebuchadnezzar avait emmenés en exil de Jérusalem à Babylone. Verset 4. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. Donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur parce que votre propre bien-être est lié au sien. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent, comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. En revanche, voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur, j'accomplirai ce que je vous ai promis, en vous ramenant ici. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel. Et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. Dieu veut notre bien. Nous le voyons là au verset 11 où il dit « Je connais les projets ou les pensées que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » C'est difficile quand ça n'a pas l'air d'être le cas. Nous avons du mal à croire que Dieu veut notre bien. Et c'est difficile à croire aussi pour eux qui reçurent cette lettre à Babylone. Et je crois que, au lieu de prendre seulement ce verset, si nous enrichissons notre compréhension par tout ce qu'il y a autour, en nous replongeant à l'époque où ces paroles étaient écrites, nous serons encouragés. Il y a bien entendu des différences entre leur situation et la nôtre. Eux étaient en exil, loin de chez eux. Nous sommes chez nous. Eux étaient le peuple d'Israël, une société et un code civil régi par Dieu et sa loi. Ils se trouvaient en Babylonie, c'est-à-dire en territoire ennemi, ayant été envahis par leur armée. Et cette catastrophe avait été une conséquence directe de leur désobéissance sur plusieurs générations, comme les prophètes l'ont annoncé. Il ne s'agit donc pas d'une épidémie de l'époque. D'ailleurs, la Bible parle peu d'épidémie. Mais malgré les différences, il y a quelques similitudes tout de même. Il s'agit du peuple de Dieu, et nous n'avons pas remplacé Israël, mais nous sommes incorporés dans le peuple de Dieu par la foi au Dieu d'Abraham. Le scénario de l'époque était catastrophique, comme celui d'aujourd'hui, et les lecteurs n'étaient pas où ils voulaient être. Certainement, ils souhaitaient que ce soit vite terminé, comme nous le souhaitons aussi pour notre période éprouvante. Et dans cette circonstance, le message de Jérémie est bouleversant et plein de vérité, notamment concernant les plans de Dieu. Je préfère le mot plan que le mot projet, car le mot plan est plus définitif. C'est ce que Dieu va faire, pas ce que Dieu aimerait faire. Et la première chose que nous découvrons sur le plan de Dieu dans ce verset est que le plan de Dieu est le sien. Ce titre est plus riche et plus profond qu'il n'en a l'air. Le plan de Dieu est le sien. Les plans de l'Éternel sont connus par lui. Il dit, je connais les projets que je forme pour vous. Le projet est à la mesure de la grandeur de notre Dieu. Son plan affecte toute l'histoire de l'humanité, du début jusqu'à la fin, et prend en compte tous les peuples. Et ce plan est centré sur lui, notre Créateur. Ce projet-là, qui est dans la pensée de Dieu depuis avant la création du monde, est révélé progressivement. Et je dois dire qu'il est révélé dans les grandes lignes, mais pas dans tous ses détails. Il parle en Éphésiens 1, verset 9, d'un projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre en œuvre lorsque le moment serait vraiment venu. Tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que sur la terre. Mais comment va-t-il le faire? Par l'Évangile, bien entendu, mais on n'a pas tous les détails, n'est-ce pas? Il a révélé ses objectifs, mais pas ses moyens. Nous savons que Dieu veut nous sauver en Christ, nous rendre conformes à lui par le Saint-Esprit. Il veut nous faire grandir dans notre amour pour lui, mais nous ne savons pas comment il va utiliser telle ou telle personne, telle circonstance pour ses objectifs. Quand Dieu dit « Je connais les projets que je forme pour vous », il met l'accent sur le « je ». Moi, je connais les projets. Nous ne connaissons pas tous les secrets de Dieu, même en tant que ses enfants bien-aimés. Savez-vous aussi que Dieu peut entreprendre un projet qui dépasse les limites? Qui peut dire ce qu'il dit en Jérémie 29, verset 10, dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur? Il peut décider de quelque chose et l'annoncer pour le mettre en opération en 70 ans, 70 ans plus tard. Le chronométrage a surpris les lecteurs de Jérémie. Ils pensaient que si Dieu allait intervenir en leur faveur, ce serait tout de suite, dans 2 ans maximum. Mais ce qu'annonçait Jérémie est résumé au verset 28. Votre exil va durer. Le Seigneur n'est pas pressé, il n'est pas limité dans le temps. Il n'est pas non plus limité dans l'espace. Ce qu'il promet là est bien au-delà des frontières d'Israël. Ça concerne un royaume qui, à ce moment-là, était une superpuissance. Et il affirme qu'il va faire sortir son peuple de ce royaume-là-bas. Regardez le verset 14. Je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. Comment peut-il faire ce genre de promesse, au-delà des frontières d'Israël? C'est parce que c'est lui, c'est Dieu, qui les a fait partir en exil. Il utilise cette même expression 3 fois. Au verset 4, les exilés que j'ai emmenés à Babylone. Au verset 7, je vous ai exilé. Et puis au verset 14, c'est lui, le Seigneur, et pas l'empereur babylonien qui les a emportés. Et il pourra les faire sortir de là. Le retour promis en ces versets, c'est réalisé. Après ce message, je vous encourage à lire, peut-être dans la semaine, Daniel 9 et Esdras chapitre 1 pour lire la suite de ces paroles de Jérémie. Ça s'est réalisé. Mais pour maintenant, attention à notre foi. Ne croyons pas que le Seigneur est actif dans un lieu géographique uniquement, une sorte de confinement du Seigneur, en disant « oui, il sauve des gens en Afrique, mais pas en Europe ». Ou « Dieu fait grandir des églises en Amérique, mais pas en Belgique ». Ça, ce serait restreindre Dieu à une zone géographique. Ou de manière plus locale, dire que parce que nous ne sommes pas dans les églises sont fermées, alors que l'église ne vit pas. Ce genre de mentalité restreint Dieu à ne pas pouvoir agir à Babylone comme il agit à Jérusalem. Dieu n'est pas restreint par des frontières géographiques. Et n'oublions pas que Dieu n'est pas restreint non plus à une période de l'histoire. Souvent, on pense au passé lointain, n'est-ce pas? On lit des livres de ce que Dieu a fait par le passé. Et c'est vrai qu'il agit différemment, en différents endroits et à différents moments. Mais il n'est pas diminué par le temps, comme si aujourd'hui il avait perdu de sa puissance pour intervenir et pour agir. Reconnaissons aussi, à travers ce verset, la différence entre ses plans et les nôtres. Nous aimerions lire ce verset 11 différemment, je pense. Nous aimerions que Dieu nous dise « Je connais les projets que tu as pour toi ». Pensez que Dieu approuve tous nos projets. Il va transformer nos rêves en réalité. Mais Dieu met en garde contre ce genre de raisonnement au verset 8. Dieu a ses plans. Il est clair que nous n'avons pas la capacité d'accomplir nos projets. Dans cette période de confinement, je ne sais pas si ce qui m'est arrivé vous est arrivé aussi, sans doute, mon agenda est devenu caduc. Du jour au lendemain, j'ai regardé 3 semaines et j'ai dû commencer à nouveau mon agenda parce que ces 3 semaines, tout tombait à l'eau. On avait un prédicateur visiteur préparé, invité pour ce dimanche, le 5 avril. Et finalement, on n'en a pas eu besoin. On ne peut pas venir à l'église, c'est fermé. Et qui oserait aujourd'hui fixer un rendez-vous pour fin avril ou même réserver ses vacances d'été? On a perdu l'habitude de dire « Dieu voulant ». Mais nous comprenons aujourd'hui que si Dieu décide autrement, on ne peut rien y faire. Nous n'avons pas la capacité d'accomplir nos projets. Lui, si. Le plan de Dieu est le sien. Et ce Dieu qui est grand peut l'accomplir. Mais dans la suite, nous voyons que le plan de Dieu est bon. Le plan de Dieu est bon. Il révèle dans ce verset 11 que son plan est un projet de paix et non de malheur. Notez que ce plan n'est pas pour le bonheur de tous. En ce même chapitre, il est question de punition et de malédiction au verset 18. Akab, Sédékias et Shemaja sont des hommes nommés dans ce chapitre qui ne seront pas bienheureux ni protégés. La difficulté quand on prend un verset comme Jérémie 29, 11 sans lire le reste du livre est qu'on perd une grosse partie de son impact. On lit ici que Dieu a un projet de paix et non de malheur et on pense « c'est sympa d'avoir un verset comme ça, je like ou je l'écris à un ami ». Mais quand vous lisez le livre de Jérémie, vous percevez ça d'une toute autre manière. Après l'appel de Jérémie au chapitre 1, Dieu dénonce l'idolâtrie de son peuple pendant de longs chapitres. Dieu annonce le malheur. À cause de leur infidélité, Dieu prévient qu'il va les juger, qu'il va envoyer l'envahisseur contre eux. Il y a des reproches et des menaces. Le Seigneur montre la différence entre lui et les idoles. Il accuse son peuple d'avoir violé l'alliance qu'ils avaient avec lui. Et il souligne que le jugement est inéluctable. Il est trop tard pour ce peuple. Ils ne pourront pas y échapper. Leurs rois sont trop corrompus. et le peuple a suivi leur mauvais roi. Jérémie avait à annoncer tout ça, le malheur de la juste punition pour leurs péchés, et il l'a fait fidèlement. Et donc nous lisons tous ces premiers 28 chapitres, et quand nous arrivons à ce verset 11 du chapitre 29, c'est comme l'aube. Un espoir resplendit, un projet de paix. C'est beaucoup plus frappant. Pour ceux qui lui font confiance, Dieu annonce la paix. Le mot bien connu, shalom, qui décrit une paix profonde. Imaginez le bien que ça leur faisait d'entendre parler de paix après avoir connu la guerre et l'envahisseur. Mais aussi quelle grâce d'annoncer ainsi la paix à des gens qui avaient été en guerre contre Dieu. Il leur parle d'un avenir et de l'espérance qui est la foi tournée vers l'avenir. Là encore, c'était très émouvant d'entendre cela. Au cas où ils croyaient, ces réfugiés israélites exilés, qu'ils étaient abandonnés par leur Seigneur, voici qu'il dit, il y a un avenir. Et c'est un avenir que vous pouvez anticiper avec joie. Dans un avenir proche, Dieu leur annonce la paix dans la ville même où ils habitaient. Verset 7, recherchez la paix, littéralement, de la ville où je vous ai exilé. Au lieu de craindre que leurs maisons et leurs vignes seraient volées par leurs ennemis, les Israélites exilés devaient construire des maisons et faire du jardinage, verset 5. Et même envisager des mariages, que le peuple de Dieu ait une descendance, verset 6. Parfois, avoir un enfant est un acte de foi en Dieu pour l'avenir. Adam et Ève ont eu un enfant après la chute, le monde était maudit, mais Dieu avait annoncé un sauveur qui serait un fils d'Adam. Ici, les fidèles rescapés devaient avoir des enfants. Leur monde était maudit, mais la descendance survivrait, au-delà de l'avenir proche. Il y avait aussi un projet de paix. Pour un retour dans leur pays, verset 10, « J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici, là où Jérémie écrivait, Jérusalem. » Et cela s'est produit. En 458 avant Jésus-Christ, Esdras ramenait un grand groupe. 50 000 personnes revenaient avec lui. Qu'en est-il pour nous? Dieu veut aussi que nous ayons l'espérance. Et ce qui est beau ici, c'est que nous avons interrompu notre série en Romains chapitre 15, mais que le verset que nous allons prêcher, le verset suivant, ce que nous avons lu la semaine passée, dit ceci. « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Voyez-vous ce que Romains 15, verset 4 nous dit là. Nous, en tant que chrétiens qui lisons les Écritures de l'Ancien Testament, nous sommes censés avoir de l'espérance. Quelle espérance? Notre espérance n'est pas liée à un lieu, à un territoire, Notre situation est pareille à celle à Babylone, peut-être. Nous sommes en exil. Et nous pouvons apprendre de cette situation à rechercher le bien de notre société. Notre patrie est céleste, nous dit le Nouveau Testament. Nous attendons aussi que Dieu nous y amène. Dieu veut nous faire du bien. Mais nous pourrions expérimenter des difficultés. Certains pourraient être sous pression, inquiets. Certains d'entre nous seront éprouvés d'une autre manière. Bien sûr, des chrétiens vont être malades, pourraient avoir le coronavirus. Certains pourraient mourir ou connaître le deuil. Des chrétiens fidèles souffrent. Rappelons-nous que dans la Bible, Ézéchiel, le prophète, a perdu sa femme. Le roi David a perdu ses fils, Amnon et Absalom. Donc n'annoncez pas des promesses que Dieu n'a pas faites. Et ne croyez pas des affirmations qui ne sont pas bibliques. Le chrétien qui meurt du coronavirus n'est pas moins aimé par Dieu que celui qui meurt d'un arrêt cardiaque ou d'une tumeur. Toutefois, la paix nous est promise et l'avenir est assuré. L'espérance est en Christ. Ceux-là sont garantis aux chrétiens. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons un avenir auprès de lui. Il ne nous abandonnera pas. Donc si quelqu'un est gravement malade, je ne lui dirai pas tu guériras. Il n'y a pas de promesse de cela dans la Bible. Mais je pourrais lui dire, tu ressusciteras si tu crois en Jésus-Christ. Voilà une promesse biblique. Jean 11, si vous voulez des détails. Ce fléau qui s'abat sur le monde nous force à reconnaître que nous sommes plus proches de la vie éternelle que nous le croyons d'habitude. Nous pensons tous que nous aurons une longue vie en bonne santé. Mais non, la mort nous rend face à face avec notre fragilité. Nous devons saisir la vie éternelle. Et justement, le plan de Dieu est que nous le trouvions. C'est la troisième chose que nous découvrons sur le plan de Dieu à partir de ces versets. Le plan de Dieu est que nous le trouvions. Il a promis à Jérémie qu'il allait intervenir et agir. Il avait un projet. Il a annoncé cela au verset 11. Et puis, quelle est la conséquence? Verset 12. « Alors, vous m'appellerez et vous partirez, ce sera la fin de l'exil, vous me prierez et je vous exaucerai. » Dieu a en tête là une relation, une proximité renouvelée avec ses enfants. Qu'est-ce que Dieu aime entendre ses enfants prier? Il aime tant que nous passions du temps en sa présence. En Ésaïe 30, j'étais fort frappé en lisant cette semaine. Il est dit, il n'attend que le moment pour vous faire grâce. Il a tellement envie de montrer sa compassion et sa bonté. Et j'aime bien ce poète chrétien qui a écrit, poète contemporain, « Tu crois que tu as fait 10 000 pas pour t'éloigner du Seigneur. Rappelle-toi qu'il ne faut qu'un pas pour revenir à lui. » Et si c'est le cas pour quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, sachez que l'offre tient toujours. Nous nous égarons parfois un temps, un jour, une semaine, parfois toute une vie. Et le Père céleste désire que nous revenions à lui. Il faut faire demi-tour. Arrêter de chercher autre chose que lui, de chercher notre bonheur autre part, ou de chercher à fonder notre vie autre part que sur lui. Il faut revenir. Ainsi, il écrit au verset 13 et 14, où il est dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. Vous me trouverez. » Dieu ne veut pas être caché. Il est comme ce papa de petits-enfants quand il joue à cache-cache, qui se laisse facilement trouver. Il est invisible, mais il ne veut pas être inconnu. Comme il est dit dans le Nouveau Testament, en Actes 17, verset 27, « Il a voulu que tous les peuples cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » Une relation est possible. Elle est mise en place, elle est voulue par Dieu. Et là, nous nous rendons compte que l'Éternel veut être pour son peuple bien plus qu'un médecin qui veut les guérir ou un agent immobilier qui veut leur trouver un domicile. Il est leur créateur, il est leur juge et il est Dieu. La réponse de le chercher, de l'adorer, le rencontrer est une nécessité absolue, essentielle à notre vie. Chercher et trouver Dieu, nous étions créés pour cela. Nous pouvons être tellement préoccupés par les informations quotidiennes que nous oublions l'essentiel. Pensons aujourd'hui à ce virus. Qui peut dire aujourd'hui pourquoi ce virus s'est répandu autour du globe? Quel changement cela apportera en 6 jours, en 6 mois, à notre vie, à notre monde? Nous n'avons aucune idée de ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Mais nous savons ceci, Dieu veut que nous le trouvions. Au point où Dieu n'est pas resté au ciel, il a déchiré le ciel, il est descendu sur terre, Emmanuel, Dieu parmi nous. Et celui que nous appelons Jésus était l'incarnation de Dieu, sa présence personnelle visible. Dieu s'est fait connaître de la manière la plus visible et tangible qui soit pour que Jean puisse écrire. Nous l'avons vu de nos yeux, nos mains l'ont touché, nous en sommes témoins, nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Et après avoir marché dans la poussière de Nazareth et guéri des malades, après avoir fait entendre sa voix, son enseignement et son appel, le Fils de Dieu se rendit à la croix et mourut physiquement, agonisant, pour amener à Dieu les pécheurs que nous sommes. Jésus est ressuscité. Il vit et il veut que nous vivions avec lui. Il veut que nous le trouvions, que nous ne soyons jamais séparés de lui. Voyez l'effort qu'il a produit pour que ce soit possible. Et vous, l'avez-vous cherché? Vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur, dit l'Éternel. Si vous ne l'avez pas fait, cherchez-le. Je ne parle pas d'une démarche académique, mais personnelle. Soyez prêts à le trouver. Je souhaite vivement pour nos jeunes, peut-être qui ne le connaissent pas encore, pour les personnes que j'aime et qui ne connaissent pas encore notre Dieu, que cette période de confinement sous la menace de la mort soit le moment pour recevoir la paix avec Dieu et la vie éternelle. Priez-le avec vos mots, à cœur ouvert, et écoutez ses promesses, découvrez son plan. Et pour ceux qui ont déjà cherché après Dieu et qui ont trouvé Dieu, vous savez que le Seigneur vous a répondu. Vivez alors dans la paix, la relation avec l'Éternel, le Dieu vivant, et découvrez aussi cette espérance qui est la nôtre. Comme le dit l'apôtre Pierre, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre, et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Notre espérance et notre avenir sont sécurisés en lui, au paradis. En conclusion, nous avons vu aujourd'hui la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu et la proximité de Dieu. C'est de lui que nous avons besoin, même plus qu'un vaccin contre cette affreuse grippe. Prions. Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui parle aujourd'hui, comme tu as parlé dans le temps. Tu as un projet qui traverse les siècles et qui est centré sur Jésus. Et nous voulons aujourd'hui, sans rien maîtriser de notre avenir, mais en croyant en ta bonté, te demander que nous puissions être à toi pour la mort et la vie, que nous puissions te faire confiance pour le sort de nos familles, de nos amis, de notre ville et de notre pays, et que nous puissions connaître cette relation de proximité avec toi. Merci pour ta parole qui nous montre si clairement qui tu es. Puissions-nous la saisir et la suivre. Amen.